le thème de mon intervention, c'est gauchisme culturel et démocratie du chaos. Alors d'abord, lever un malentendu, je ne crois pas du tout que le gauchisme culturel soit responsable de tous nos maux. Il n'a pas créé le chômage de masse, il n'a pas été à l'initiative de la crise des subprimes, enfin bon. Cela dit, il a accompagné ces crises et cette dimension-là et était à mon avis un facteur d'accélération du malaise existant. Sinon, d'abord par gauchisme culturel, qu'est-ce que j'entends ? Bien écoutez, j'entends un courant diffus, présent au sein de la gauche, mais à mon avis pas simplement au sein de la gauche, qui entend, et j'insiste là-dessus, changer les mentalités et opérer une sorte de révolution, aussi paradoxale que cela puisse paraître, par la douceur. En dehors, évidemment, de toute violence et contrainte manifeste ou visible, et c'est un courant qui agit au sein même de la démocratie et qui ne prétend pas, d'ailleurs, dépasser l'étape démocratique, mais qui s'appuie sur un certain nombre de tendances problématiques et les pousse à l'extrême. C'est un courant qui entend donc changer les mentalités par quoi ? Par la communication, l'école, la pédagogie et la loi. Et dans cette volonté de changer les mentalités, il y a un point très important, c'est l'intérêt et l'attention particulière qui est portée aux nouvelles générations, je dirais, dès la maternelle. À travers un certain nombre de supports pédagogiques, de bandes dessinées, de littérature enfantine, et des expérimentations sur les enfants au sein même de l'école. Je crois qu'il faut rappeler cette phrase de Vincent Peillon, qui a été effectivement écrit dans des conditions très particulières, puisque dans cette directive, il entendait lutter contre les fantasmes et les rumeurs propagées par l'extrême droite, qui étaient tout à fait réelles. Mais enfin, il a, à mon avis, dit quelque chose de très intéressant et très clair. Le gouvernement s'est engagé, a-t-il dit, à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités. Je crois que les choses sont absolument clairement dites, qu'on le veuille ou non. Il est vrai également que la responsable de la porte-parole du gouvernement a parlé de ce travail sur le plus jeune âge afin qu'il produise en quelques années des résultats tout à fait sensibles. Alors la question très simple, c'est la première question, d'où tire-t-il la légitimité pour vouloir changer les mentalités, transformer les mentalités? Et je dirais que ça va beaucoup plus loin, parce que dans des textes officiels, ce n'est pas simplement des déclarations d'associations. Quand on entend combattre, par exemple, les préjugés et les stéréotypes ancrés dans l'inconscient collectif, je veux dire, bon, qu'est-ce qu'un État qui entend se fixer comme mission ce vaste programme? Je vous signale, en ce qui concerne la sexualité, vous imaginez bien, je veux dire, ça remonte à loin. Donc, et c'est un État, c'est-à-dire des documents officiels d'État, qui vous pouvez lire ça aujourd'hui. Alors, de quel droit? Et je pense qu'on est bien véritablement dans une optique de désaliénation des fausses idées du peuple, de moralisation tout à fait nouvelle. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne crois pas du tout que ceux qui ont voté Hollande, je tiens tout de suite à le préciser, ont voté pour lutter contre le déracinement des préjugés, des stéréotypes ancrés dans l'inconscient. Ça, je ne crois pas du tout. De même, je ne crois pas du tout qu'ils ont voté pour que le gauchisme culturel soit désormais présent au plus haut sommet de l'État. Je dois dire qu'une bonne partie d'entre eux ne s'y attendait pas du tout. Alors, bon, le problème fondamental, si vous voulez, au-delà de ces petites anecdotes, c'est qu'est-ce que c'est la fonction de l'État et du pouvoir en démocratie ? Je veux dire, de quelle légitimité et de quel droit peut-on se prévaloir, d'une part, et d'autre part, les missions de l'école républicaine. On parle beaucoup de laïcité, si vous voulez, alors là, la laïcité concerne les religions. Mais on oublie complètement ce que représente le gauchisme culturel. Voilà, à mon avis, deux questions très simples à propos de la démocratie. Bon, le fond du problème, je l'ai dit, je me répète un peu, excusez-moi, c'est que le fond du gauchisme culturel repose en fait sur ce que j'appelle un point aveugle de certitude. C'est une expression qui n'est pas de moi, mais qui est de Claude Lefort. Et ce point aveugle de certitude, c'est celui d'être le dépositaire, le propriétaire d'une certaine idée du bien à partir duquel il faut bouleverser les mentalités et changer la société. Ce qui permet de délimiter d'emblée le camp du progrès et de la réaction. Alors voilà en gros rappeler ce que j'appelle gauchisme culturel, et je viens de mentionner en quoi il est gauchiste, en quoi il est culturel, en quoi il s'intéresse à la culture. Alors la culture au sens anthropologique du terme, hein, c'est-à-dire un ensemble de comportements, de valeurs qui imprègnent plus ou moins consciemment la société, il entend bouleverser précisément cet ethos qui est issu d'une longue tradition et d'un long héritage dans un certain sens et de ce qu'il estime être précisément le bien. Pour le dire beaucoup plus précisément, je pense que le gauchisme culturel a opéré un triple déplacement, si j'ose dire. Il a déplacé la question sociale, qui était quand même le facteur central de l'identité de la gauche depuis le XIXe siècle, vers les questions sociétales, autour d'un certain nombre de thèmes privilégiés, qui ne sont pas simplement la question des mœurs, mais aussi, surtout, en même temps, l'éducation des enfants, mais aussi la nature et l'environnement, la culture, mais la culture en lui donnant un traitement très particulier, et aussi l'histoire. Donc ce sont ces thèmes privilégiés, on passe finalement de cette question centrale qui définissait la gauche, qui était le facteur structurant de son identité, à ce déplacement vers les questions sociétales. Le deuxième point, c'est qu'il a déplacé la politique vers la morale, vers plus précisément une approche moraliste de la politique, qui dissout la politique et réduit ce qu'on appelle le débat politique à une forme de dénonciation et de condamnation, et qui s'accompagne dans la montée dans l'espace public d'une nouvelle figure de l'intellectuel journaliste, un prédicateur militant, qui, si vous voulez, qui dans les habits blancs de l'éthique et de la morale, semble interpeller non simplement les princes, mais dénonce ce qui, de près ou de loin, rappelle l'ordre ancien. Alors, dans cet troisième déplacement, mais je dirais que c'est plus global, c'est qu'il a inversé le rapport entre l'État et la société dans le sens où c'est la société, il joue facilement la société contre l'État. Alors là où ça devient très paradoxal, c'est quand les représentants du gauchisme culturel qui avaient en tête ces idées-là sont eux-mêmes au sommet de l'État. Là, ça devient très particulier. Bien sûr, il y a l'héritage impossible de mai 68, mais j'insisterai simplement sur un moment très important qui est le moment des années 80, c'est-à-dire le moment où, passant, pour le dire très schématiquement, de la société elle-même, à travers un certain nombre d'associations, de groupes militants, eh bien, il s'institutionnalise. Et il s'est institutionnalisé dans un moment très particulier, c'est-à-dire au moment du mitterrandisme triomphant. C'est à ce moment-là, je vous rappelle qu'en même temps, un certain nombre de militants issus des mouvements lycéens, étudiants ou des groupes d'extrême-gauche sont arrivés avec Mitterrand, à entrer au sein du Parti Socialiste, et ils vont y faire carrière. C'est exactement le même moment, si vous voulez, et ils vont d'ailleurs acquérir au sein du Parti Socialiste un certain nombre de postes assez importants. Et Génération Morale, rebaptisée Génération Mitterrand par un publiciste, eh bien il y en a qui sont restés là, si vous voulez. On en voit encore, notamment au sein du représentant du Parti Socialiste, qui continue de lutter contre le fascisme et qui voit la droite comme un espèce de paravent vis-à-vis de l'extrême droite, et qui paradoxalement appelle à faire front aujourd'hui avec cette droite brune, enfin c'est très paradoxal, au nom du Front Républicain. Bon, donc il y a cette reconversion du gauchisme au sein de l'appareil d'État qui se situe précisément dans les années Mitterrand, qui ont été à mon avis extrêmement importants, qui ont été véritablement le moment où ce gauchisme culturel occupe l'État et va acquérir progressivement une situation hégémonique en occupant un certain nombre de postes politiques, culturels et notamment dans les grands médias. Alors, cela étant dit, je tiens quand même à préciser que en réalité, le gauchisme culturel déborde aujourd'hui la gauche. Si la gauche a bien été à l'avant-garde de ce mouvement, aujourd'hui, son hégémonie s'est étendue et notamment a pénétré la droite. Je vais donner simplement deux exemples. N'oublions pas que c'est sous la présidence de Jacques Chirac que fut annulée la manifestation du bicentenaire de la bataille d'Austerlitz. Et c'est pourquoi. Parce qu'au même moment, je vous signale qu'il y avait un livre qui avait tout bonnement rapproché l'esclavage mis en place par Bonaparte à partir de 1802 et les lois nazies contre les juifs de Nuremberg en 1935. Au moment où publie ce livre. Et non seulement ça. L'auteur de ce livre, aux analogies historiques pour le moins problématiques, s'est retrouvé nommé immédiatement à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Deuxième point, concernant le genre à l'école, je rappelle tout simplement bêtement que c'est le ministre Luc Chatel, sous la présidence de Sarkozy, qui a le premier introduit l'enseignement du genre auprès des élèves en classe de première, et notamment dans l'enseignement des sciences de la vie et de la terre. Mais par-delà, si vous voulez, cette dimension de la sphère politique, je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est que des générations entières, c'est-à-dire la fameuse génération Mitterrand, mais un tout petit peu avant, mais il y a eu plusieurs strates, si vous voulez, ont baigné dans ce gauchisme culturel, et ce qui a produit, j'y viendrai, des effets de déculturation historique extrêmement importants. C'est une espèce de bain naturel relayé par des grandes chaînes, évidemment pendant toutes ces années 80-90, de grandes chaînes de télévision, avec des effets de génération qui sont de déculturation et de dépolitisation. C'est-à-dire la morale remplaçant la politique, et donc la capacité de se décentrer en dehors de donner des leçons devient et peut-être rendue plus difficile. Voilà. J'en viens à la question centrale du rapport de ce gauchisme culturel avec la démocratie. Alors, je crois qu'il y a une chose, la droite et l'extrême droite a tendance à parler de totalitarisme à propos du politiquement correct ou de ce gauchisme culturel. Je pense que c'est une erreur, enfin bon, et que c'est un abus de langage. Mais je voudrais simplement d'abord peut-être rappeler des éléments qui, d'une certaine façon, peuvent être mis un peu en parallèle, hein, dans un premier temps. Par exemple, si vous êtes un journaliste et que vous critiquez à la radio une affiche très particulière qui devait être affichée dans le métro, où on reprenait avec le serment du jeu de paume « Nous sommes la nation », c'est-à-dire la France et nous, qui était représentant par un certain nombre de communautés, donc beaucoup de femmes voilées. Bon. Il faut savoir que le collectif contre l'islamophobie a porté plainte. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais quand vous êtes journaliste et que vous êtes convoqué chez le juge, c'est des faits très matériels. Pour avoir critiqué cette affiche-là, eh bien ça c'est une réalité qui rappelle quand même un certain nombre de choses. On pourrait prendre aussi, en remontant plus haut, sur Olivier Pétré-Grenouilleau, qui est quand même... Il y a eu une plainte qui a été portée, elle a été retirée, mais enfin, on arrive à ça. On porte des plaintes accusées de banaliser un crime contre l'humanité en ayant montré dans son livre qu'il a existé une traite en direction de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, dont d'ailleurs le caractère était tout aussi abominable que celle de l'Europe et des Amériques. Aujourd'hui, les dénonciations ne se font plus par lettre anonyme. Vous avez un certain nombre d'associations qui disent d'utilité publique, dont beaucoup sont financées d'ailleurs par l'État, c'est ça le paradoxe, hein, donc, qui ont pour rôle de surveiller la parole et la pensée. Et vous avez un certain nombre de journalistes qui préparent, qui font le travail de la police, quasiment même de l'instruction, hein, et qui se présentent comme... Ça, c'est quand même des réalités... Je ne sais pas s'il y a 20 ans, 30 ans, on aurait pu penser arriver à cette situation en France. On parlait beaucoup du politiquement correct aux États-Unis, mais là, j'ai l'impression, enfin, d'après témoignages d'amis qui sont allés, que là, on a peut-être un peu même tendance à dépasser cette chose. Quant aux moyens de propagande, si vous voulez, là aussi, on peut penser à un certain nombre de choses. Rapidement, les campagnes audiovisuelles avec des journées programmées. Alors, je ne vais pas rappeler les journées du sida, d'ailleurs, à l'époque, au moment des dernières élections présidentielles. Non, les avant-dernières élections présidentielles, un certain nombre de candidats avaient cru bon de s'afficher « J'ai le sida, vous voterez-vous pour moi ?» C'est des choses très étonnantes. Où les politiques sont amenés à signer devant les caméras de télévision une charte pour la nature avec Nicolas Hulot, les caméras étant là, etc. Ils passent par des... C'est des fourches codines. Bon, ça, c'est des éléments très importants. Mais au-delà de ça, vous avez une campagne. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, c'est le président Hollande rendant visite à la ministre des femmes, représentante du gouvernement, porte-parole du gouvernement, qui est accueillie par des femmes, qui est entourée de femmes, qui se fait photographier à côté des femmes. Bon, alors, je ne vais pas faire d'analogie historique, parce que ça serait un peu poussé. Mais enfin, on a connu des grands leaders qui se faisaient afficher. À l'époque, c'était les ouvriers, si vous voulez. Hein. Ils allaient sur les chantiers, et donc, j'étais dans les crèches, il était, etc. Donc, mais en même temps, on voit bien que c'est complètement ahurissant, c'est pas la même chose, ça se termine pas par l'interrogation, la torture et la mort. Donc il faut arrêter d'une certaine façon de faire ces analogies-là. Il y a d'ailleurs, à mon avis, quelqu'un d'essence à parler de fascisme. D'ailleurs, honnêtement, ça serait le cas, on ne pourrait pas faire cette réunion aujourd'hui. Je pense que le gauchisme culturel n'entend pas d'abord créer une étape nouvelle de l'histoire, d'une régénération de l'humanité. C'est pas, si vous voulez, une nouvelle société comme promesse. D'une certaine façon, pour lui, le changement, c'est toujours maintenant, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est un chantier vaste et toujours renouvelé pour transformer les mentalités, et notamment lutter contre les stéréotypes inconscients. Donc, on n'en finit pas. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment il agit? Quels sont les effets? Et pour moi, le gauchisme culturel agit avant tout, non pas par effet d'adhésion massive au sens des idéologies anciennes, mais par effet de déstructuration et de déstabilisation. Je vais m'expliquer sur ce point. Sur d'abord, un phénomène de désinstitutionnalisation et de bouleversement du rapport à la loi. Je pense qu'il a introduit un nouveau type de rapport avec les institutions qui est complètement ambivalent. D'un côté, les institutions sont considérées comme des instruments répondant à une demande de besoin et de désir, et notamment aujourd'hui le désir d'enfant s'intègre dans cette demande vis-à-vis de l'institution, et la loi c'est exactement pareil, en même temps que, je dirais, s'en méfie terriblement parce qu'il est synonyme de domination. Alors vous avez à la fois cette demande et en même temps cette distance, c'est-à-dire la réduction des institutions à une logique de service avec en arrière-fond quand même le modèle plus ou moins conscient du client-roi. Le rapport à la loi et au droit se trouve de la même façon chamboulé, si vous voulez. Ça, c'est des effets importants. La loi elle-même n'est pas au service, pour faire très court, de l'intérêt général, elle est au service de groupes particuliers minoritaires. Et en même temps qu'elle a pour fonction de transformer les mentalités. Et le droit, je dirais, n'est plus considéré comme une référence qui symbolise la prééminence du monde commun sur les désirs individuels, mais comme un instrument au service des individus et de leurs désirs, je l'ai dit, en impliquant le désir d'enfant. Le deuxième point important de l'effet du gauchisme culturel est un effet, je dirais, de reconsidération de l'histoire dans un sens éminemment pénitentiel, et là il y a eu des effets sur une période de 30 années qui a complètement déstructuré, je dirais, le roman national, pour reprendre une expression de Paul Yonnet, et qui a complètement renversé la vision positive antérieure de l'histoire en développant une vision très noire de l'histoire de France européenne, marquée et obsédée par la question de Vichy, de la collaboration du nazisme, du colonialisme et d'une France raciste. Et là aussi, j'insiste, ces thèmes étaient présents dans les années 70 à travers un certain nombre de groupes gauchistes. Ils ont été institutionnalisés dans un moment très particulier, qui sont les années 80. Vers cette relecture pénitentielle de l'histoire, il y a comme un anachronisme, une déréalisation du monde et du temps présent. On a l'impression que la France, depuis des années, vit dans les années 30. Hein, avec une montée du fascisme, moi j'ai connu ça dans les années 68, c'était la fascisation de l'État, le fascisme montant, il n'arrête pas de monter. Bon, et maintenant, le voilà, on vous l'avait bien dit, ça fait 40 ans. Donc il finit par venir, si vous voulez. Effectivement, il y a des signes d'extrême droite, de retour de l'extrême droite. Et l'histoire, véritablement, semble s'être arrêtée là. Et je pense qu'il y avait un ami qui me disait, qui est présent, qui me disait, mais précisément, on demanderait à des jeunes, quelle est l'histoire de l'Allemagne? Eh bien, l'Allemagne, ça commence avec Hitler. Avant, il n'y a rien. Bon. Et effectivement, cette analogie historique qui ramène constamment en arrière sur du déjà connu, enfin du déjà connu répété en boucle dans une espèce d'éternel présent-passé, tend à masquer, à mon avis, à ne rien comprendre, ça c'est un grand risque, c'est pas simplement un risque, à ce qui se passe aujourd'hui du point de vue de la recomposition d'extrême droite et les formes nouvelles de l'antisémitisme. C'est-à-dire, on a l'impression toujours que c'est les chemises brunes, les SA, etc. Enfin bon, quand vous regardez comment les SA ont repris Berlin, excusez-moi, enfin bon... Ou les chemises noires de Mussolini avec les meurtres que ça supposait, on est en dehors de la réalité. Donc, et on est incapable, à partir de là, de comprendre ce qui est en train de se passer du point de vue du nouvel antisémitisme, les nouveaux éléments de l'antisémitisme et l'extrême droite recomposée. Le deuxième point, c'est que ça sert de paravent pour ne pas aborder les défis du pays. À chaque fois, on le met en avant pour esquisser les problèmes auxquels on est confronté dans le présent. Et je pense que cette analogie maintient pour un certain nombre de gens un monde tout à fait fictif. Le troisième aspect, je vais très vite, c'est que cette déstructuration concerne le langage et les significations. Le gauchisme culturel a vidé littéralement les notions de fascisme et de totalitarisme de toute consistance idéologique, politique et historique. Il en a fait des mots complètement vides, des concepts élastiques et des qualifications qui discréditent moralement l'adversaire. Ces mots, en fait, vidés de leur signification, deviennent des marques identitaires créant un certain nombre de réflexes pavloviens de défense. Plus globalement, je pense que point de vue du langage, c'est toute une ligne symbolique, si j'ose dire, d'équivalence qui s'est mise confusément en place. Autorité égale pouvoir, égale domination et aliénation, égale fascisme, égale totalitarisme. Cette déstructuration du langage va au-delà des restes de ces idéologies, parce que c'est des idéologies en morceaux, en fait. Ça ne forme plus corps, ça ne forme plus la même dynamique historique. On peut le regretter, mais il y avait une dynamique historique, elle était terrible, mais elle était là. Bon, il n'y a plus cette dynamique. Donc, on erre dans un champ de ruines et on bricole, si vous voulez, à travers des restes et des lambeaux de ces idéologies-là. Et quand ces restes d'idéologies se croisent avec la rhétorique pédagogique et managériale, ça donne une drôle de chose, si vous voulez. Et précisément, ce croisement, il s'est fait au début, dans les années 80. Moi, j'avais analysé ça, d'ailleurs, à propos d'un certain nombre de thèmes, à propos de l'entreprise. On voyait l'autonomie qui était autrefois revendiquée à partir de la société, tout d'un coup devenir une injonction paradoxale vis-à-vis des salariés. Il faut être autonome, mais à la maternelle dès le plus jeune âge. Et la revendication d'autonomie s'était transformée en compétences à évaluer dans le livret d'évaluation des compétences de la maternelle. Donc vous avez cette espèce de retournement très paradoxal. Alors, ça donne des choses très étonnantes qu'on va trouver, d'ailleurs, dans les rapports sur l'intégration, qui d'ailleurs ont été mis sur le site pour la première fois. On a mis une espèce de bouillie langagière mélangée à des restes de militantisme plus ou moins cohérents sur un site officiel de l'État. Alors évidemment, c'est ce fameux rapport sur l'intégration. Je vous rappelle quand même quelque chose, je ne résiste pas pour qu'on l'ait en tête. L'intégration mène des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi. Et elle entend répondre ainsi à des difficultés sociales nées d'une origine étrangère, réelle ou supposée. Alors, et par quoi remplacer? Eh bien, la fameuse société inclusive, je vous ne citerai qu'une phrase. L'histoire de la dynamique économique et politique de l'Occident est celle-ci. Celle d'une recherche permanente de l'inclusion par opposition non à l'exclusion mais à la prédation. Une société de prédation se construit avec des institutions correspondant en miroir par la domination de certains, maintenant frontières et barrages à leur profit. Vous avez compris? Bon. Mais enfin, c'est toujours pareil. De cette bouillie sort quelques lignes force. Et ce qui sort de cette bouillie et ces lignes force, c'est deux choses. C'est la fin ou la mise en question directe du modèle républicain, parce que ça, à travers cette... Mais ça désarçonne, en même temps, par quel bout vous le prenez. C'est là où ça n'agit pas de la même façon que les idéologies anciennes. Les idéologies anciennes, vous avez quelqu'un en face. Là, vous avez l'impression, sans arrêt, de boxer avec des édredons. Seulement, il y a quelques arêtes, il y a quelques lignes fortes, si vous voulez, dans les édredons, mais il faut quand même pouvoir décrypter. Et ça désarçonne, à ce moment-là, et ça empêche... Ça même, je dirais que ça casse même l'envie d'y voir clair. Parce qu'au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Et c'est sur ces terrains déstructurés qu'à ce moment-là, on peut faire passer un certain nombre de choses. C'est ça, pour moi, la spécificité qui le distingue du totalitarisme, qui est beaucoup trop, qui est un concept qui ne veut plus rien dire. Je pourrais dire la même chose à propos de la culture, hein, puisqu'il y a une déstructuration de la notion de culture dans le sens des œuvres, au profit de l'expression de la subjectivité débridée, rebaptisée créative et mêlée de bons sentiments et de restes de militantisme, faisons la leçon aux citoyens qui ne comprenaient rien. Alors en conclusion et rapidement, quelle influence réelle et quels sont les effets de ce gauchisme dans la société? Alors je crois qu'il faut faire attention à une chose, ne confondons pas les représentations, les discours de ce gauchisme culturel avec ses effets dans le réel. En d'autres termes, je l'ai dit, c'est moins d'adhésion forte, sauf un milieu très particulier, qui pour lui, le gauchisme culturel, c'est un marqueur identitaire. Il est né dedans, pour beaucoup de journalistes de génération que j'ai indiqués. Donc il n'y a pas d'en dehors, c'est naturel. Il n'y a pas autre chose, c'est évident. Ça fait partie de l'évidence. Mais alors évidemment, ces représentants sont nombreux, ceux qui sont naturellement dedans depuis leur adolescence. Bon, c'est très important. Mais par exemple, je ne vais pas citer un grand magazine, mais bon, Dieudonné, très bien. Quand vous mettez Zemmour, vous êtes d'accord ou pas avec Zemmour, mais vous le mettez au même titre que Dieudonné. Quand ce même hebdomadaire parle des intellectuels néofascistes en mettant Alain Finkielkraut dedans, vous voyez, rien que ça. Bon, quand rappelez-vous la querelle des nouveaux réactionnaires, hein, où il y a un certain nombre de gens concernés ici. Bon. C'est toujours d'ailleurs la même chose. Bon. Et dernier, c'est Éric Zemmour et Elisabeth Lévy avec son allusion à Marcel Déa, c'est-à-dire le socialiste passé à la collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Enfin, je dis rien. C'est complètement coupé du réel. Ça intéresse qui? Ça intéresse toujours les mêmes dans une logique de mécanisme identitaire. Parce qu'ils sont eux-mêmes complètement perdus. Si vous perdez ça, vous avez l'impression qu'ils ne vivent que là-dedans. Et en plus, comme ils sont tout le temps entre eux et se reproduisent entre eux d'une certaine façon, c'est toujours la même chose. Donc, on ne quitte pas le milieu. Et je crois qu'il faut faire attention à la grosse caisse de résonance des médias, surtout aujourd'hui, parce qu'il se trouve que je fais beaucoup de conférences en province. Et je vais vous dire, là, vous êtes à 100 000 de ça. Mais à 100 000, le discours, c'est plutôt l'autre côté qui revient. C'est plutôt le politiquement incorrect qui se lâche. Ça n'a rien à voir avec ça, rien. C'est l'inverse. Bon. Alors, je crois qu'il faut se méfier de cette illusion, de la caisse de résonance des grands médias, même si ça reste extrêmement important. Et je pense qu'il y a une hégémonie, si vous vous situez, pour ceux qui ont connu les années 80, je parlais du livre de Paul Yonnet, qui a été immédiatement attaqué, mais plus qu'attaqué, par les mêmes représentants qui aujourd'hui dénoncent les nouveaux réactionnaires, etc., et qui a été complètement ostracisé par la gauche. Quand vous le relisez aujourd'hui, ce livre était éminemment prophétique sur beaucoup de points. Et là, il a été absolument balayé. Alors comment ça marche? Eh bien, ça marche pas, ça marche pour un petit milieu, mais ça ne s'ancre pas et ça ne peut pas s'ancrer, à mon avis, durablement. C'est pour ça que je parlerai de démocratie de chaos. Démocratie du chaos, parce que c'est plutôt des effets de déstructuration et de déstabilisation que des effets d'adhésion forte, si vous voulez. Le gauchisme culturel est un des éléments qui a contribué à la coupure des élites et du peuple par l'hégémonie qu'il a acquis, au moins dans une certaine partie de la classe politique et même chez les intellectuels. Alors c'est précisément sur ce terrain déstructuré qu'une partie de l'extrême droite se recompose. Donc il y a une partie de l'extrême droite qui se recompose de façon tout à fait inédite, mais le gauchisme culturel est incapable de le penser, et d'autre part une autre partie où là on voit ressurgir un antisémitisme qu'on croyait complètement oublié et des idéologies les plus rétrogrades. Bon, pour terminer sur une note d'espoir, je pense que nous sommes à une période d'une fin peut-être d'un cycle historique. Le seul problème, c'est que c'est une décomposition qui n'en finit pas de finir, si vous voulez. Bon, voilà.